بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم, ربي زدنا علما يا كريم, ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Mes chers frères en islam, la semaine dernière, on avait expliqué le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala avait annoncé que ces personnes qui ont fait du tort aux musulmans, aux mu'minines et aux mu'minat à l'époque de ces rois, à l'époque de ces empereurs, et qui avaient donc torturé, persécuté les musulmans uniquement parce qu'ils avaient la ilaha illallah de leur cœur, et que si ces personnes-là meurent, ثم لم يتوبوا, sans demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala a annoncé depuis maintenant que فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ, que ces gens qui ont fait souffrir des musulmans et des musulmanes, qui les ont enterrés, qui les ont brûlés vifs et les ont enterrés, hommes, femmes, enfants, uniquement parce que de leur cœur il n'y avait qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, la ma'abouda bihaqqin illallah, alors ces gens-là, s'ils ne demandent pas tauba, si avant de mourir ils n'ont pas demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala annonce que le jour du qiyamah, dans l'au-delà, ils auront le châtiment de la guéhenne, le jahannam, et walahum azabul hariq, et le châtiment du feu de l'enfer. Et on avait dit la dernière fois qu'avant de prendre le verset concernant le paradis, on allait brièvement, hein, brièvement s'attarder, hein, c'est, hein, on allait s'attarder un petit peu sur thumma lam yatubu. Thumma lam yatubu, lorsqu'Allah Ta'ala dit, subhanallah, on relit la traduction littérale du Coran, ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas. Les ulama, les mufassirin, rahimahumullah, ils disent, regardez comment Allah Azza wa Jal, en même temps qu'Allah Ta'ala annonce que quand il châtie, quand il punit, sa punition est terrible, sa punition est exemplaire, le jour de la résurrection, mais en même temps Allah Azza wa Jal montre qu'il est clément, miséricordieux, et qu'Allah Ta'ala pardonne, que malgré l'horreur qui a été accomplie à cette époque et à toutes les époques où des gens font du tort à ceux qui ont la foi et qui les tuent, et que ces gens meurent pour leur iman, que même si des personnes tuent des dizaines, des centaines, des milliers de gens, mais si un jour Allah leur accorde la possibilité de demander tauba, s'il y a un changement de leur cœur, et si un jour ces gens reviennent vers Allah avec un cœur rempli de sincérité, et ça c'est le mot clé, avec un cœur rempli de sincérité, alors que ces personnes sachent qu'Allah Ta'ala est capable de les pardonner. Là, on ne parle pas d'une personne qui a bu de l'alcool avec ses amis, ou une personne qui pendant quelques années sortait en boîte, ou qu'une personne qui a fait l'adultère, et qu'un jour il demande tauba à Allah, et qu'il revient vers le din, et recommence à venir à la masjid, et il regrette ce qu'il a fait. On n'est même pas dans ce genre de péché. On est dans des cas où des gens tuent, persécutent, ils reprennent la vie bidoun haq, ils reprennent la vie d'une personne uniquement parce qu'ils ont, ils adorent Allah. Donc c'est-à-dire le pire des crimes. Mais si ces gens-là demandent tawbah, Allah Ta'ala est quand même capable de les pardonner. On avait cité l'exemple de la dernière fois du hadith très connu, hadith qu'on enseigne aux enfants, que les enfants vous ont expliqué, que vous avez lu dans les ta'lim, dans les livres. Il y avait un homme, dans les peuples avant nous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. On avait expliqué que c'était un meurtrier, et on avait dit qu'à notre époque, quelqu'un qui tue 99 ou 100 personnes, c'est, je veux dire, dans le cadre d'une guerre, je ne parle pas d'une guerre civile, mais dans le cadre des guerres avec les matériaux, avec les nouveaux, hein, les nouvelles technologies, c'est possible. Quelqu'un appuie sur un bouton, il peut tuer 10 000 personnes, ou parfois 100 000 personnes. Mais quand on parle de l'époque avant l'islam, mais même si c'était l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire à une époque où il n'y avait aucune technologie. C'est-à-dire, pour tuer une personne, il fallait vraiment, un, être motivé, et deuxièmement, il fallait avoir une raison. C'est-à-dire, on pouvait tuer qu'à l'arme blanche, ou alors avec les poings, ou alors en étranglant, je ne sais pas, il y a différentes possibilités, Anwar nous détaillera, ceux qui sont intéressés. Mais yani, pour qu'une personne tue quelqu'un, il fallait vraiment être motivé. Et qu'une personne, à cette époque, ait tué 99 personnes, ça montre la cruauté de cet homme. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Que oui, pour qu'une personne tue 99 personnes, un par un, c'est que vraiment c'était quelqu'un rempli de haine et de méchanceté. Mais à un moment donné de sa vie, cette personne décide de retourner vers Allah. Mais déjà, regardez, subhanallah, il y a des gens parfois quand ils voient quelqu'un de le péché, je dis que celui-là, c'est Jahannam, direct. Lui, même pas besoin de mettre un kafan, on met dans la tombe, ça consume. Donc, il y en a qui disent que peut-être il faut mettre les trucs que les pompiers utilisent, là, qui sont ininflammables et tout, parce que lui, ça a chauffé, dès le crabe. Il y a des fois où on juge les gens. Quand on voit des gens, on dit que lui, ça, jamais. Ça m'est déjà arrivé parfois de parler avec des gens et quelqu'un dit, mais il peut être pas autant avec lui, c'est un monde, il vient pas namaz. C'est un monde qui ne fréquente pas la communauté. C'est un monde qui n'aime pas musulman. Il est musulman, mais il n'aime pas musulman. Mon frère, qui te permet de juger de l'intérieur de son cœur? Il est possible que cette personne-là, à la base, c'était quelqu'un qui fréquentait la masjid, qui fréquentait la communauté et qui venait à la salade comme nous, comme vous, alhamdoulilah, comme nous tous. Mais qu'à un moment donné, à une étape de sa vie, il y a eu un problème avec quelqu'un, un mu'min, un musulman. Ça l'a tellement dégoûté que pour lui, ce comportement-là, il l'a assimilé au comportement du musulman. Il a fait un amalgame entre les défauts, entre la mauvaise façon d'agir d'un frère musulman et les principes de la religion. Ce qui fait que la personne peut-être s'est dit que oui, mais si c'est pour être comme ça qu'on pratique la religion, dans ce cas, laisse tomber, je quitte ce dîn. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, surtout de la part des personnes qui se disent religieux. Les personnes qui pensent pouvoir donner des exemples ou alors qui pensent parfois constituer un exemple en termes de pratique, sachez que les gens vous regardent avec un regard encore plus attentif. Quand on voit une personne religieuse agir d'une manière incorrecte, il y a des fois où c'est pas vous qui serez accusé, c'est la religion d'une manière générale, c'est l'islam ou c'est la pratique. J'avoue que c'est une anecdote, mais parfois c'est des anecdotes un peu trop crues, alors je sais pas si on est prêt ou... Bref. D'accord. Parfois, il y a des problèmes qui se passent avec des gens religieux. Ça peut être même religieux à certains niveaux aussi, que parfois, par un excès de piété, on peut vexer une personne. Par exemple, je dis à Anwar, ben, après salat, viens manger à la maison. Et Anwar me demande, ben, moi, on a autre manger les halal. Mais comment je prends ça, moi? Et supposé, enfin, c'est vrai, c'est le cas. Anwar est quelqu'un de plus religieux que moi. Maintenant qu'il ait des diplômes, c'est quelqu'un d'éduqué, qui est mashallah, qui a des qualités, qu'on le reconnaît comme un référent religieux. Et que je lui dis, ah non, à un moment, j'ai à la maison, il me dit, ben, est-ce que ton manger halal? Pour lui, c'est le summum de la piété que de s'enquérir de ce qu'on mange. Mais celui qui encaisse ce causement, comme on dit, celui qui entend cette parole, il se dit que, ah bon? Donc quand on devient comme lui, quand on devient un religieux, quelqu'un de pratiquant, ben, on finit par se dire que, mis à part nous, ben, tous les autres, c'est des faux musulmans ou des hypocrites. Et puis, il peut avoir un repli sur soi. Ah non, vaut mieux pas trop monter dans la religion si vous devenez comme ça et tout, laisse tomber. Alors, il faut faire très attention de l'image qu'on peut donner du dîn. Donc, la personne que nous voyons très éloignée, il est possible que moi je connais une personne particulière, précise, que j'ai croisée dans un magasin, je pense qu'il n'y est plus, au centre-ville. C'était un convertible, je ne le savais même pas. Et il a vu comment j'étais habillé, je voulais acheter un produit là-bas. Et puis au cours de la conversation, il m'a dit que moi j'étais musulman. J'ai dit, ah bon, pourquoi tu dis que tu étais? Elle dit, maintenant c'est fini. Et il m'a même dit je ne veux pas vous dire, mais alhamdoulilah, il a fréquenté certains groupes de personnes, des groupes particuliers de la religion et tout. Et il peut vous lire des hadiths, il connaît des choses et tout. Mais je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es plus musulman? Moi, ça m'a interpellé parce qu'il m'a cité certaines choses de la religion qui prouvent que c'était quelqu'un qui avait une pratique assidue. Alors il m'a dit que j'ai fait affaire avec un arabe, avec un musulman, d'accord? Et il m'a trompé. Et c'était quelqu'un d'un pratiquant. Donc je me suis dit que ça, c'est une religion d'hypocrite. Parce que lui, il pratique et regarde comment il m'a eu. Il m'a volé mon argent. Donc depuis ce jour, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler de cette religion. J'ai essayé de le persuader, mais bon, c'est fini. Il avait pris sa décision. La guidée, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend la guidée. Donc déjà, on doit comprendre que subhanallah, on doit faire attention. Là, on a iman, on a la foi. Il faut demander à Allah de nous protéger. Que jamais il arrive quelque chose dans notre vie qui fait que notre iman est en danger, il vacille et qu'on risque de le perdre. Et deuxièmement, imaginez ce musulman qui a fait affaire avec ce converti et qui l'a trompé, c'est lui qui portera les conséquences de son ridda. C'est lui qui portera les conséquences de son abandon du dîn. Parce qu'il a donné une mauvaise image de la religion. Donc, faire très attention. Donc, pour revenir au Tawbah, quand nous voyons l'exemple de cet homme, et nous, parfois, on considère que telle personne, c'est trop tard. Il est parti trop loin. Mais non, cet homme-là, en finalité, on ne va pas raconter l'histoire que vous connaissez, qu'on a rappelé la dernière fois. En finalité, à la fin de l'histoire, Allah Ta'ala l'a pardonné. Cet homme qui avait tué 99 personnes, en finalité, à la fin du hadith, Allah Ta'ala a accordé son pardon à cette personne. Et si Allah Ta'ala accorde son pardon à cette personne, c'est-à-dire l'intégralité de ses péchés est pardonnée. Et c'était à la fin de sa vie. C'est-à-dire que quand il rencontre Allah, dites-moi qu'est-ce qu'il a comme péché? Rien du tout. Ça, c'est pas un Dieu rempli d'amour et de compassion, ça? Quand les chrétiens disent que, comme l'a dit la dernière fois, Dieu est amour, ben nous, notre Allah, il est wadoud. Vous dites Dieu est amour. Moi, nous, on dit Allah, il est wadoud. Allah, il est rahman. Allah, il est rahim. Ça, c'est la grandeur, la générosité, la bonté de notre Seigneur. Autant de péchés qu'une personne peut faire, il suffit d'être, non, pas riche, ni rempli de diplôme, ni issu de grande famille, ni avoir tel historique ou être reconnu, être aimé par les gens. Il suffit d'être sincère. Quand on a la sincérité dans le cœur, quand mon objectif c'est rechercher le contentement de mon Créateur et rien d'autre, quoi qu'en disent les gens, le doux ne peut garder en travers, en haut, en bas, c'est pas grave ça. L'objectif c'est pas d'avoir le contentement des gens. L'objectif c'est pas que quand les gens vous regardent dans la rue, ils disent que oui, lui il est intégré, lui c'est un bon, lui il est un bon citoyen. L'objectif c'est quoi? Tout en respectant les règles communes, il n'y a rien à dire là-dessus. L'objectif c'est qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de moi. Parce que quand j'arrive là-haut, là, devant le tribunal d'Allah, et qu'Allah Ta'ala appelle Anwar, fils de Ibrahim, fils de Abdallah, ou qu'Allah Ta'ala appelle Abdurrahman, fils de Ishaq, fils de Yaqub, parce que chaque personne sera appelée un par un, par son nom, le nom de son père, le nom de son grand-père. Et qu'Allah Ta'ala va lui poser des questions point par point sur chaque erreur, chaque péché. C'est pas les gens qui vous aimez dans ce monde qui vient à votre secours, non. La seule chose que vous avez avec vous, c'est votre foi et les actions qui sont présentées devant vous. Le hadith qui explique comment les gens seront présentés individuellement devant le tribunal d'Allah, le hadith, j'ai pas le hadith là sous les yeux, le texte est magnifique. Il dit que fayanzuru ila yaminihi fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ila shimalihi fala yara illa ma qaddam ou comme qala alayhi salatu wassalam, que cet homme regarde à sa droite et il ne voit rien d'autre que ce qu'il a amené comme action. Il regarde à sa gauche et il ne voit rien d'autre que ce qu'il a amené. Et il regarde devant lui, qu'est-ce qu'il voit? Il y a le Jahannam qui est devant, là-bas, qui attend. Le Jahannam a faim. Le Jahannam a besoin des gens qui vont rentrer dans ce feu. Wallahu musta'an, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ces situations-là, mes chers frères, c'est pas les gens qu'on cherchait à satisfaire. Non, c'est uniquement Allah Azza wa Jal qui décide est-ce qu'on a réussi ou alors on n'a pas réussi. Donc, on a d'autres exemples avec Wahshi, hein, l'esclave qui avait assassiné Hamza radiallahu anhu et qui avait ouvert son ventre, qui avait tiré son foie et qui avait donné le foie à qui? Comment s'appelait cette dame? Hind. Et quand on dit Hind, qu'est-ce qu'on dit après? Radiallahu anha. Ajib ce din. Ajib cette religion, incroyable cette religion. Quand on parle de Hind, cette femme qui a essayé de mâcher et d'avaler le foie de l'oncle du prophète sallam pour lui faire du mal. Il voulait se venger, elle détestait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il savait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus au monde, c'était son oncle. Parce que chez les Arabes, quand le père est décédé, l'oncle prend la place du père. Donc le prophète sallam aimait son oncle Hamza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait son oncle Hamza. Et elle a voulu ouvrir, elle a fait ouvrir le ventre de Hamza, tirer le foie, elle voulait manger pour se venger. Parce qu'elle détestait Nabi Karim alayhi salatu wassalam. Et cette dame-là, qu'on parle d'elle maintenant, on est obligé de dire radiallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Pourquoi? Parce qu'avant de mourir, Allah lui a accordé la guidée. Et elle a lu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et elle fait partie des habitants du paradis. Cet homme qui a tué Hamza, qui s'appelait Wahshi, lui aussi Allah lui a accordé la guidée. Il a dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et le prophète sallam a accepté, il les a acceptés comme sahaba, comme compagnons. Ça c'est une religion qui est extraordinaire parce que c'est la religion de l'espoir. Aucune cause n'est perdue. Personne ne doit se dire que j'ai trop fauté, c'est fini. Non, ça c'est shaitan. Le musulman ne désespère jamais. Allah Ta'ala, il est ghafour, il est rahim. Et donc, même Abu Sufyan, regardez, subhanallah, avant le Fath Makkah, il embrasse l'islam. Et Allah Ta'ala accepte son pardon. Alors les ulama, rahimahumullah, disent que si ces gens, si parmi eux, il y en a qui avaient demandé tawbah, Allah aurait accepté le tawbah. On avait dit la dernière fois que, vous savez, que quand un musulman accomplit certaines actions, comme le fait de faire ses ablutions et de venir à la masjid, faire les 5 salat en congrégation. Le prophète alayhi salat wa salam donne l'exemple d'une personne qui habite près d'une rivière, d'un fleuve, et qui s'y baigne 5 fois par jour. Pensez-vous qu'à la fin de la journée, il y a encore de la saleté sur le corps de cette personne? Jamais. Pareil, les prières purifient le musulman. Également, nous savons, il y a pas mal d'actions comme ça, quand on les enchaîne, Allah pardonne les péchés. La majorité des savants sont d'avis que les péchés qui sont pardonnés dans ce genre de situation, ce sont les petits péchés. Maintenant, les gunas kabira. Je donne un exemple de péché majeur. Min al-kabair, l'adultère par exemple. On va rester sur l'adultère. Les deux grands péchés de nos jours, l'adultère et l'intérêt. On a dit que les deux grands péchés, c'est en relation avec les femmes, al-jins, et en relation avec hubbul mal, l'attachement au bien de ce monde. Alors, pour des péchés aussi graves que ça, comprenez que ce n'est pas en faisant wuzu que, voilà. Les ulama disent que pour ces péchés graves, Allah Ta'ala demande aux musulmans, Tubu ilallahi tawbatan nasuha, un repentir sincère. Et le repentir sincère, les ulama disent qu'à la lumière des hadiths, ils disent qu'il y a, certains disent 4, certains disent 5 conditions, mais ça revient, c'est à peu près le même contenu. Dans le tafsir que nous utilisons, l'auteur cite 5 conditions pour que même les péchés majeurs soient pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. La première de ces conditions, c'est quoi? Al-ikhlasu lillah. Comme on l'a dit tout à l'heure, le mot d'ordre, c'est quoi? C'est la sincérité. Que la personne, quand il va demander pardon à Allah, c'est qu'il recherche le contentement d'Allah. C'est que dans son cœur, il y a des remords, il regrette et il aimerait qu'Allah Ta'ala l'accepte de nouveau. Il aimerait qu'Allah Ta'ala oublie, sans guillemets, pardonne ses erreurs et qu'Allah Ta'ala de nouveau le ramène vers lui. Qu'il redevienne un serviteur, qu'il redevienne parmi les adorateurs d'Allah, qu'il soit parmi les gens qu'Allah va agréer le jour de la résurrection et le faire entrer au paradis. C'est l'amour pour Allah et la crainte de son châtiment qui doit être à la base du tauba d'une personne. D'accord? Après, dans le commentaire, les ulama disent également, par exemple, si une personne, je vous donne le contre-exemple. Ce que vous allez dire, mais quand quelqu'un demande tauba, ben il est sincère. Attendez, il peut y avoir un contre-exemple. Par exemple, je veux me marier avec Fatima. Je vois son père, je dis que voilà, je veux épouser ta fille. Est-ce que tu me donnes la main de ta fille? Le papa dit, écoute, je sais que toi, tu travailles à la banque, dans un endroit où il y a de l'intérêt. Ou alors, je sais que toi, tu consommes de l'alcool. Tout le monde le sait, toute la communauté le sait. Je te donnerai la main de ma fille à condition que tu arrêtes ce péché. Et là, j'arrête. Parce que mon objectif, c'est quoi? C'est pas que je crains Allah. L'objectif, c'est que j'ai besoin de me marier avec cette fille. J'ai besoin de quelque chose, c'est pour ça que j'arrête un péché. Ça, c'est le contre-exemple. C'est ça que les ulama disent que si ce qui motive la personne, c'est le contentement d'Allah et la crainte de son châtiment, dans ce cas, on va considérer que la personne est mukhlis. Mais ça, c'est pas à moi de dire que lui, il est mukhlis, lui, il n'est pas, lui, il est non. Ça, c'est Allah seul qui juge. Et la personne, dans son cœur intérieurement, il sait qu'est-ce qui le pousse, qu'est-ce qui le motive. Parce qu'il n'y a personne qui va venir avec un pistolet, demande tawbah, sinon je te tue. Ça n'existe pas, ça. C'est quelque chose qui est, et ça c'est tawfiq min Allah. C'est pour ça qu'il faut demander, oh Allah, accepte nous. Tawfiq, c'est Allah qui donne. Et c'est Allah qui peut illuminer le cœur d'une personne à un moment donné de sa vie pour qu'il demande tawbah. Parce que demander tawbah, c'est pas donner à n'importe qui. Il y a des gens qui sont dans un cercle vicieux de péchés, ils les cumulent et ils ne s'en sortent jamais jusqu'à ce que Malik al-Maud reprenne le âme. Ils meurent alcooliques, ou ils meurent en consommant de la drogue, ou ils meurent avec l'adultère tous les jours, toutes les semaines, etc. etc. Nasrullah al-Afiya. Il n'a pas eu tawfiq. Allah ne l'a pas choisi pour lever les mains, pleurer et demander pardon à Allah. Donc avoir cette sincérité qui nous pousse à demander tawbah, ça c'est Allah qui l'accorde à qui il veut. Donc à nous, qu'est-ce qu'on fait? Demander, oh Allah, accepte-moi pour demander régulièrement tawbah, pour demander régulièrement pardon pour mes erreurs. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, an-nadamu ala ma hasara min adh-dhanbi. Les ulama disent que la deuxième condition pour qu'Allah accepte le repentir sincère, c'est de regretter les erreurs passées. Et si quelqu'un, et ça s'enchaîne, si quelqu'un n'est pas sincère, elle ne va pas regretter le péché. Quand est-ce qu'on va regretter le péché? C'est quand on est sincère. Quand j'ai compris que j'ai fait une gaffe, j'ai fait une erreur, et que j'ai besoin de me rattraper, j'ai besoin qu'Allah m'accepte de nouveau, j'ai peur qu'Allah m'éloigne, comme un bateau qui peu à peu avec le vent s'éloigne, et puis il est trop loin. J'ai peur qu'Allah m'éloigne du cercle des gens qui l'aiment à cause de ce péché, à cause de cette erreur. S'il n'y a pas la sincérité, la personne n'éprouvera pas de remords. Et les ulama disent maintenant, comment regretter un péché? Il y a des gens qui se disent que oui, mais je suis tellement attaché à ce péché que je ne peux pas m'arrêter, j'ai du mal à m'arrêter. Alors les ulama disent qu'il y a deux façons de provoquer le regret. De quelle manière? La première chose, c'est que la personne analyse les bienfaits qu'il a. Il est en bonne santé, il n'est pas sur une chaise roulante, il ne dépend pas des gens, il ne dépend pas de médicaments. S'il veut sortir, il sort. S'il veut aller à un endroit, il va. Alhamdoulilah, il a la liberté. Il n'a pas de problème, comme il n'a pas des épreuves comme certaines personnes ont des épreuves. Quand il voit les bienfaits qu'Allah lui a accordés, il doit se dire que comment puis-je être aussi ingrat et désobéir à Allah alors que mon voisin, lui, il a tel problème, tel souci, telle difficulté, et que malgré ça, il reste de l'obéissance d'Allah. Alors que moi, Allah m'a accordé plein de bienfaits, comment, quel ingrat je serais que de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une personne à cette, ça c'est un péché, ça c'est un problème ça, hein, surtout pour les messieurs, pour les mu'minina yaruddu min absar. C'est dur ça, oui ou non? Ça c'est, dans un contexte dans lequel nous vivons, c'est certainement un des péchés les plus répandus et une des choses les plus difficiles à contrôler. Contrôler son regard. Si une personne a du mal à contrôler son regard, quand il voit une femme, il ne peut pas s'empêcher de regarder. Quand il voit du haram à la télé, il ne peut pas s'empêcher de regarder, etc., etc. Ou sur internet, ou je ne sais pas, quelles que soient les sources. La personne doit se dire que je connais telle personne qui est aveugle, ou une personne qui a perdu la vue, et que cette personne donnerait tout ce qu'elle possède au monde pour avoir 2 minutes, pour pouvoir regarder le soleil, voir ses enfants. Il aurait aimé voir ses enfants grandir, mais il a perdu la vue. Et moi, je vois, subhanallah, je n'ai aucun problème, et j'utilise ce bienfait dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Comment je suis ingrat? Donc la première chose pour provoquer le regret, les remords, la prise de conscience plutôt, c'est d'analyser qu'est-ce que Allah m'a accordé comme bienfait, et quand je me rends compte, je me dis que je ne peux désobéir à mon Créateur qui m'a accordé tel et tel bienfait. Et la deuxième chose, ça c'est un principe important, connaître son Rabb. On avait développé ça à Montreuil il y a quelque temps. Connaître son Seigneur, connaître les noms d'Allah, les attributs d'Allah. Pouvoir essayer de concevoir, j'ai dit bien essayer de concevoir la grandeur d'Allah en analysant la grandeur de sa création, de ce monde bien sûr, mais quand on lit les hadiths qui parlent, qui décrivent l'ange Jibril alayhi salam, l'ange Mikaïl alayhi salam, l'ange Israfil alayhi salam, les hadiths qui décrivent les anges qui portent le trône d'Allah, les hadiths qui décrivent le trône d'Allah, on voit que c'est immense, immense, immense. Moi, comment je peux désobéir à ce Créateur? Quand on voit qu'il y a des anges qui depuis leur création jusqu'à la fin du monde, ils sont en position de sijda. Et lorsque Allah Ta'ala va ordonner à l'ange de souffler dans la trompe, ils vont se lever. Il va dire, oh Allah, subhanaka ma abidnak haqqa ibadatik. Oh Allah, nous t'avons pas adoré comme tu le méritais. Alors que depuis la création jusqu'au qiyama, ils sont en sijda, ils font les louanges d'Allah. Alors moi, comment je peux désobéir délibérément à Allah Azza wa Jal? Donc quand on essaie de comprendre la grandeur d'Allah, le pouvoir, la puissance d'Allah, et là je vois que là je vais faire tel péché, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas désobéir le Créateur des cieux et de la terre. De la sorte, le musulman, s'il essaye de penser à ça, Inch'Allah, il va éprouver des regrets, il y aura une prise de conscience et il y aura une distance, Inch'Allah, entre lui et ses mauvaises habitudes. Il y avait un jeune qui me demandait l'autre fois une question. On est entre nous, c'est un public adulte, hein. Un jeune adolescent qui me parlait d'un problème, un problème récurrent chez les jeunes, problème de la masturbation. Il dit que voilà, il a du mal à s'arrêter. Bon, c'est sûr qu'à un âge, il y a, comme on dit, les hormones, il y a tout ça qui fait que. Et puis vu le contexte, tout ce qui appelle vers la dépravation, il y a certains qui peuvent se dire, oui, mais s'il fait ça, heureusement, vaut mieux qu'il fait ça que le zina. Non. Hors de question, en aucun cas. Donc, pour une personne qui se dit que, il se dit, ça, ou alors le péché le plus récent, c'est l'accès à la pornographie sur Internet. Et ça, vous pouvez mettre des filtres comme vous voulez. Les enfants, les jeunes, ils sont intelligents. Ils sauront détourner les filtres. C'est des hackers, je sais pas c'est comment ils font leur truc, mais ils arrivent à trouver ce qu'ils veulent, Allah musta'an. Et vous savez, il y a 15 ans, il y a 20 ans, si quelqu'un voulait voir des trucs pas bien, hein, il fallait chercher. Il fallait aller lever minuit, 1h du matin, je sais pas quoi, regarder la télé. Maintenant, il n'y a plus besoin. Je me rappelle longtemps, j'avais 10-12 ans, il y avait nos professeurs qui donnaient des conseils aux parents. Ils disaient qu'il est impensable que des parents laissent les enfants avoir une télé dans leur chambre. Oh mon Dieu, mais quel discours de... Maintenant, c'est un discours préhistorique ça, c'est dépassé. Elle dit, parce que cet enfant, il a la télé, qui vous dit que dans la nuit, s'il se réveille, il ne va pas allumer, il va voir des scènes qui ne sont pas adaptées, etc., etc. Mais de nos jours avec Internet, dites-moi, quel jeune n'a pas un portable de sa chambre, ou alors maintenant même avec les GSM, bref, type. Et donc, ceux qui sont addicts, ça devient une addiction. Mais cette personne-là doit, un, regarder qu'est-ce qu'Allah lui a accordé, et se dire qu'avec tout ce qu'Allah m'a accordé, comment je peux être aussi ingrat et désobéissant. Deuxième chose, essayer de comprendre quelle est la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et puis l'idéal également, c'est de lire les descriptions du paradis pour que la personne ait à tamar, qu'il ait envie d'accéder au paradis. Et il sait que je ne peux pas avoir les plaisirs ici et là-haut en même temps. Et lire les descriptions de l'enfer également pour qu'il y ait la crainte d'Allah et la crainte de cet endroit qui a été créé par Allah pour punir les gens qui sont dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Donc la sincérité, premièrement. Deuxièmement, les remords, regretter les péchés. La troisième condition que les ulama, rahimahumullah, ils ont citée, c'est un yaqla'a 'ani dhanbi, que la personne arrête immédiatement le péché. Par exemple, si quelqu'un, son péché, son problème, c'est le zina en adultère, à partir du moment où Allah lui donne la possibilité de demander tawbah, il est sincère, il regrette, mais il faut que si par exemple il a une petite amie, il a une copine, il a une tantine, il dit à cette personne, maintenant c'est fini. Maintenant j'arrête, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai fait des choses qui allaient à l'encontre de ma croyance, à l'encontre de ma religion, et il doit rompre avec cette personne. Que ce soit une fille, que ce soit un garçon avec une fille avec un garçon, etc. D'accord ? Il ne peut pas demander tawba et continuer à garder des relations, même ne serait-ce amicales avec la personne. Donc ça c'est une condition importante d'arrêter le péché. Et si la personne, son péché, son problème, c'était l'argent haram, consommation de l'intérêt, ben il arrête immédiatement toute transaction en rapport avec l'intérêt. Maintenant, après, il y a des questions plus techniques, ça c'est les mouftis qui vont répondre. Quelqu'un a posé la question d'éléments, et ça on passe la main quand c'est des trucs un peu plus techniques. Quelqu'un a fait un emprunt avec, je sais pas moi, les trucs pour acheter des crédits auto ou maison ou autre chose. Et maintenant, ils découvrent que l'intérêt est haram, ils ne savaient pas que faire. Là, les mouftis, ils ont des fatwas, comment s'en sortir, la meilleure des solutions, la meilleure des façons. Mais il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Et si Allah sait qu'on est sincère, Allah Ta'ala va accepter le tawbah. L'avant-dernière condition, et puis on ne va pas trop tarder également, que la personne fasse l'intention, le niya sincère, qu'il prenne la résolution de ne plus jamais, jamais, jamais retourner vers ce péché. Que pour lui, il doit arriver à un stade où il déteste ce péché. Il y avait un jeune qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, oh prophète d'Allah, qu'est-ce qu'il a demandé? On a compris de quoi on parle. Quelqu'un a compris de quoi on va parler? Un jeune vient voir le prophète, il demande autorisation de faire le zina. Hajib ça. Les sahaba, ils ne pouvaient plus tenir. Il dit que, mais quelle audace. Demander au prophète d'Allah l'autorisation de faire quelque chose de haram. Il voulait le frapper, l'expulser. Parce que pour lui, pour eux, c'était un manque de respect. Mais ce jeune-là était sincère. Fi'ani sincère. Bon, pas dans ce qu'il voulait faire. Mais pour lui, il se dit que si le prophète me dit oui, ça devient halal, licite pour moi. Il va voir le prophète. Et regardez toute la psychologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a pas dit, oh mécréant, hypocrite, sors de là, c'est à l'adultère, on va te lapider, tout sort de là. Non! Le prophète, il a compris que cet homme-là, il a marad fil qalb. La personne a une maladie de son cœur. C'est l'excès de pulsion qui n'arrive pas à contrôler, à canaliser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cette personne-là, dit, est-ce que tu serais d'accord qu'une personne vienne te voir et dit que je vais faire l'adultère avec ta mère? Dis jamais au prophète d'Allah, qui accepterait quelque chose comme ça? Il dit, est-ce que tu serais d'accord qu'une personne vienne te voir et te dise que je vais faire l'adultère avec ta sœur? Là aussi, même réaction. Ou avec ta fille. Jamais. Inacceptable. Il dit, sache que la personne que tu convoites, c'est soit la maman, soit la sœur, soit la fille d'une personne. Et que ce que toi, tu n'aimes pas pour toi-même, les gens n'aiment pas pour eux. Regardez cette psychologie. Regardez ce tact. Regardez cette sagesse. Ce jeune homme, il a immédiatement compris. Et à la fin du hadith, il dit qu'il n'y a pas eu un... À partir de ce moment, ce jeune-là, il s'est mis à détester l'adultère plus que n'importe quel autre péché. Donc ça, c'était un exemple pour montrer qu'une personne peut arriver à un stade où il déteste un péché. Donc si on demande, oh Allah, accepte-moi pour demander tawbah, accepte-moi pour arrêter ce péché, et que ce péché devienne détestable pour moi, que je n'envisage même plus de faire ce péché. Et le contre-exemple, c'est une personne hein, qui a été en boîte un soir, il demande Toba, 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 et il sait déjà que dans 10 jours, il y a l'anniversaire de tel ami, c'est à Saint-Gilles, dans l'autre boîte là-bas, et qu'il va y aller. Le Toba ne sera pas accepté. Son Toba ne sera pas considéré comme un Toba Toun Nasuha, parce qu'il va manquer une des conditions, la résolution ferme de ne pas retourner vers ce péché. Les ulama, rahimahumullah, disent également que quand on dit, je vous sens un peu fatigué là, hein? Non? D'accord, si on est fatigué, on arrête, on continue. Les ulama disent que c'est une précision importante, que quand on dit que la personne doit prendre la résolution de ne plus recommencer le péché, il doit prendre également les précautions pour ne plus recommencer le péché. Par exemple, si mon problème c'était les sorties en boîte de nuit, et quand je vais en boîte de nuit, je bois et je fais l'adultère. D'accord? Alors, qu'il demande Tauba, c'est une bonne chose, mais il faut qu'il prenne des précautions. Premièrement, ne plus fréquenter les groupes d'amis qui l'emmènent vers ces endroits. Si la personne continue à marcher avec les mêmes personnes, c'est sûr qu'à un moment donné, il finira par retomber dans les mêmes erreurs. Quand le prophète dit le hadith que celui qui fréquente un vendeur de parfum, à la fin de la journée, soit il vous donne un échantillon, soit vous sentez bon. Je veux dire, au pire, vous sentez bon. Quelqu'un qui fréquente un forgeron, il aura les habits rouillés, salis, troués, etc., etc. Donc, la précaution à prendre, c'est de ne plus fréquenter les personnes qui nous amenaient vers ces erreurs. Si par exemple, on avait un groupe d'amis qui fumait du zamal, on sait que tous les soirs, à 22h, dans le parking Camélia ou je ne sais pas quel quartier, tout le monde se réunit, un petit jamal, zamal, jamal, zamal, d'accord? Ben, je demande taouba, d'accord? Mais c'est mis à 6 côtés autres. Au cas qu'il me sait avoir Capricorn, au début, on va mener un Capricorn, demain, un seul Pâques, après un Diego ou un Yob, mais après un monde. Donc, s'isoler, ne plus fréquenter les personnes qui nous emmènent vers le péché. Un exemple beaucoup plus simple, quelqu'un ne fait pas Fajr. Il ne se lève pas, d'accord? Il demande Toba, il a vu que c'est un péché grave que d'abandonner la salat, une prière faraz et tout. Maintenant, comment trouver une solution à ce problème, remédier à ce problème? Ben, c'est simple, il doit prendre la précaution. La précaution, c'est quoi? C'est de ne pas dormir à 1h, 2h du matin. S'il est sur Facebook jusqu'à 1h50, jusqu'à 2h du matin, après quand Facebook finit, il lit ça à Wanchiko, MSN, sur un camarade là-bas. Après, il lit tweet, tweet est un peu trop fort ça. Il reste sur Facebook avec MSN jusqu'à 2h du matin. Comment voulez-vous qu'il se lève à 5h30 pour venir à la mosquée? Donc, regretter de ne pas être réveillé Fajr, demander Tawbah à Allah, oui. Mais après, trouver la solution. La solution, c'est se coucher à une heure raisonnable. D'accord? Il n'est pas obligé, regarde Marseille contre Inter Milan. S'il connaît que s'il regarde le match qu'à 1h30 du matin, il ne pourra pas se réveiller. Il ne regarde pas. Quand il se réveille, Fajr, dès qu'il se lève, il regarde le résultat, il voit Marseille gagner. Il dit, voilà, c'est bon. D'accord? Donc, prendre les précautions pour ne pas retomber dans les mêmes péchés. D'accord? Et ne pas fréquenter les mêmes lieux, etc., etc. Et enfin, dernière condition, ashartul khamis, antakuna taubatu fi waqtin tuqbalu fihi tauba. Que le repentir soit fait à un moment où Allah accepte encore le repentir. Dieu, cher, vous venez de dire que Allah accepte tout le temps. Oui, mais il y a deux limites. La première limite, c'est quoi? C'est lorsque le soleil se lève à l'est, pas à l'ouest. C'est le jour il lève à l'ouest, mais non. D'accord? Lorsque le soleil se lève à l'est. C'est-à-dire à ce moment, Allah n'accepte plus Tawbah. Bon, ça, c'est, on va dire que ça ne concernera, Inch'Allah, pas directement. La deuxième condition, c'est que le Tawbah soit fait avant les signes de la mort, pas avant de mourir. Parce que de toute façon, après la mort, on ne peut plus demander Tawba. Quand quelqu'un est dans l'agonie, dans la maladie de la mort, dans ces derniers moments, là, le Tawba n'est plus accepté. C'est comme Pharaon. Tout ce temps-là, il n'a pas accepté les signes, ni les conseils de Moussa alayhi salam. Lorsqu'il a vu la mer se refermer sur lui, qu'il allait mourir, là, il a demandé Tawba. Allah Ta'ala n'a pas accepté son Tawba. Donc quand une personne est dans l'agonie, quand l'ange de la mort va reprendre son âme, là le Tawba n'est plus accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous interpelle. Il n'y a pas une personne parmi nous qui ne va pas passer par cette étape où il va recevoir la visite de l'ange de la mort pour reprendre son âme, pour amener son âme auprès d'Allah azza wa jalla. Il n'y a pas une personne qui va échapper à cette étape. Donc chaque personne se prépare pour un jour l'ange de la mort reprenne son âme et pour qu'il rencontre Allah azza wa jalla. Combien de personnes avant de quitter leur maison pour aller travailler a fait la bise madame d'y aller à midi et n'est plus jamais retourné? Combien de personnes ils ont pris l'avion pour aller dans un pays pour un voyage d'agrément ou de travail et des personnes ne sont jamais retournées? Donc ça, quand est-ce que l'ange de la mort vient, c'est Allah seul qui sait. C'est pour ça qu'il est important que les musulmans prennent conscience qu'on a un rendez-vous avec Allah azza wa jalla et que lorsqu'on va rencontrer Allah, il ne faut surtout pas qu'il y ait de péché qui soit resté dans 9 livrets de Coran. Donc Alain d'un Tawfiq de comprendre ces quelques paroles, et qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde à tous la possibilité de demander tawbah régulièrement. Le Prophète sallam demandait minimum 70 fois istighfar par jour. Demander tawbah avec sincérité, en regrettant nos erreurs, avec l'intention ferme de ne plus recommencer les erreurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin, alhamdulillah. Nous attendons.